18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes jeudi 22 avril et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'infos locales et citoyennes de Radio U sur le 101.1 FM. En deuxième partie d'émission, nous retrouverons la médiathèque de Saint-Martin ainsi que trois résidents d'Espéranza pour nous parler de l'atelier Slam et de sa restitution. Puis, comme à chaque fin d'émission, nous vous proposons un reportage du programme L'Alimentation Autrement de la Corlab, consacré aux enjeux alimentaires durables en Bretagne. Mais avant ça, parlons de l'exposition que vous avez pu découvrir hier au Capucin, et ce jusqu'au 27 mai, avec Marguerite Castel et Natacha Souris, interviewées par téléphone plus tôt cet après-midi. De la quatrième édition de Report Images, organisée par le Club de la Presse de Bretagne. Et est-ce que déjà vous pouvez nous rappeler les principales missions et engagements du club ?
Alors, le Club de la Presse de Bretagne est un réseau professionnel qui rassemble des journalistes en majorité et également qui est ouvert aux communicants. On y trouve aussi des photographes, des graphistes, enfin bon. Donc l'idée du club, c'est effectivement d'être un peu comme une maison des journalistes tous les métiers qui travaillent dans le domaine de l'information et de la communication. Voilà, notre intention est d'échanger un peu sur nos pratiques professionnelles qui ont évolué énormément. Je rappelle que le club a été créé en 1974, je crois que c'est le plus ancien de France. C'est un réseau professionnel qui essaye de répondre aux attentes de ses membres en termes de formation aussi, former à des nouveaux outils, réaliser un podcast. Pour d'autres, ça peut être beaucoup plus basique, comment bien rédiger un communiqué de presse. Hein, voilà. On organise aussi des événements, dont Report Images, qui est une exposition dédiée au photoreportage. Et donc la vocation de cette expo, c'est effectivement de toucher le grand public et de lui faire découvrir ce qu'est le travail d'un photoreporter et de bien lui donner la dimension documentaire de son travail. Voilà, parce qu'une photo de presse, c'est une information aussi. Ça peut être une image travaillée avec une signature esthétique, bien entendu. Mais nous, ce qu'on met effectivement en avant, ce qu'on veut vraiment souligner, c'est la valeur documentaire de ce travail et dire aussi que les photographes sont un maillon essentiel aussi dans le paysage de l'information et que leur travail n'est pas toujours valorisé. Et derrière tout ça, il y a effectivement l'idée quand même aussi de rappeler qu'on défend la liberté d'informer et c'est aussi pour tous les citoyens la liberté d'être informés.
Donc l'exposition, elle est au Capucin jusqu'au 27 mai. Elle nous propose 80 photographies. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, ces photos ?
Ces photos sont issues de reportages divers qui touchent à des sujets. On touche à l'environnement. Par exemple, il y a un très beau reportage sur la pollution par le mercure au Pérou. C'est un reportage d'Olivier Denard. Donc voilà, à travers 8 photos, on voit effectivement tous les dégâts faits par le mercure et tout ce que la population essaye de faire pour réparer ça, avec l'aide de l'armée d'ailleurs. Il y a une photo très très symbolique où on voit l'armée qui apporte des arbres donc pour replanter cette zone qui a été sinistrée, qui a été polluée. On a des sujets de société. Là, je pense à un reportage de Vincent Gouriou qui s'appelle « Loi bioéthique, allô maman bientôt ». Alors ça, c'est un travail au long cours. Et Vincent Gouriou a suivi un couple de femmes qui souhaitaient avoir un enfant. Et donc, la loi ne leur permet pas en France. Donc, ils ont dû aller en Belgique pour recourir à une PMA, procréation médicalement assistée. Et donc, il a suivi leur histoire sur plusieurs années. On voit les enfants bébés et jusqu'à leur 7-8 ans, là. Donc, c'est vraiment, il y a une approche très esthétique de ce sujet, des très belles photos des enfants et de leur maman. Et pour le relier à l'actualité, en fait, l'une de ces photos a été publiée dans Libé lorsque la loi a été examinée à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, elle n'est toujours pas votée, hein, mais Donc c'est vraiment, ça fait écho, voilà, c'est l'idée de notion de famille, c'est un témoignage sur sur une famille qui n'est pas un papa, une maman et des enfants, mais deux mamans. Donc c'est intéressant aussi. On a un sujet que je dirais là, qui touche à l'ethnologie, ça s'appelle Funérailles Vaudou. Donc c'est un reportage de Jean-Claude Moschetti qui a été fait au Bénin. Il a eu des contacts pour pouvoir suivre effectivement de près des funérailles vaudou. Voilà, donc il explique tout ce que ça symbolise. Enfin voilà, c'est un coup d'œil sur un rite qui nous semble très éloigné de notre culture, mais qui pour autant est très intéressant. On a aussi un reportage un peu culturel sur le travail de Ricardo Cavallo, qui est un peintre qui vit en France depuis 25 ans, qui est argentin d'origine, et il s'est établi à Saint-Jean-du-Loire, donc dans le Finistère Nord. Et ce peintre peint sur la roche, il peint sur une toile effectivement, mais tout le temps dans son décor, et il peint inlassablement la roche magmatique. À la fois son travail d'artiste à lui est très étonnant, et le travail du photographe, le regard posé sur cet artiste est aussi très très sensible, et les photos sont magnifiques.
Et justement, je voulais vous demander aussi, donc par rapport à Natacha Souris, donc on va l'avoir en interview juste après, qu'est-ce qui a retenu votre attention particulièrement dans son photoreportage ?
Déjà l'idée, il y a une espèce de tabou sur les naissances par césarienne, une crainte. Je pense qu'elle démystifie ainsi cet accouchement, cette naissance par césarienne. Il y a une approche très humaine, en fait, à la fois sur la maman et sur le personnel médical qui l'entoure et qui l'aide à mettre au monde son enfant. C'est réaliste sans être trop clinique, voilà.
Et donc on en a parlé un petit peu, le club il se mobilise beaucoup pour la liberté d'expression, contre notamment la loi sécurité globale. Est-ce que l'exposition, elle s'inscrit dans ce mouvement politique et on peut dire contestataire ?
À mon sens, oui, elle peut tout à fait, parce qu'effectivement elle affirme sans manifester, sans slogan, on va dire quelque chose de fait, c'est qu'effectivement ces photos, elles sont possibles, on peut les montrer, cette liberté de faire du reportage et de le diffuser est menacée. Effectivement, le club s'est mobilisé avec toute une coordination régionale et nationale. L'impression va continuer auprès des parlementaires parce que c'est très mal engagé là.
On est actuellement en confinement, semi-confinement. Pour autant, vous avez fait le choix de maintenir cette exposition. Est-ce que c'était un choix évident pour vous ?
Ah oui, on n'a pas eu de doute. On était d'ailleurs très soulagés d'apprendre que les capucins restaient ouverts, hein, parce que la crainte qu'on avait, c'était que qu'ils soient fermés au public. Je pense que l'exposition aura deux vies à Brest, c'est-à-dire donc les deux, trois premières semaines avec effectivement des visiteurs supposés être dans un rayon de 10 km, ce qui représente quand même la métropole de Brest. Et puis, dans un deuxième temps, effectivement, un public qui pourra venir de plus loin. L'autre jour, en accrochant l'expo, j'étais étonnée, effectivement, de voir pas mal d'enfants qui circulaient en roller, en trottinette, et qui sont passés voir l'expo. Je voyais aussi des ados qui dansaient. Enfin, ça s'anime par sa vie urbaine, tout simplement. C'est comme une place publique, hein, les Capucins, hein, c'est une place publique et couverte. Et donc, les gens y passent. La médiathèque est ouverte, donc il y a quand même un peu de passage. Mais évidemment qu'il fallait maintenir, hein, ça. Effectivement, il y a très peu d'expos par ailleurs. Donc peut-être que ça permet aussi aux gens d'aller voir quelque chose. Enfin, voilà. Mais évidemment, on n'aurait pas annulé.
Écoutez, Marguerite Castel, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
Je vous en prie. C'était un plaisir de nous avoir sollicités. Merci à vous. Et puis, j'espère que vos auditeurs se déplaceront au Capucin, et surtout pour voir l'expo. Et tout le monde peut consulter en ligne sur le site du Club de la Presse de Bretagne. Il y a un onglet Report Images. Là, vous pouvez découvrir une galerie de photos par photographe, et aussi leur interview vidéo et un entretien podcast qui permet effectivement de s'immerger davantage dans leur reportage et avec eux.
C'est noté. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir. Natacha Souris, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes photographe indépendante depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce qui vous a attiré vers le photoreportage ?
En fait, tout simplement le fait de ne vraiment pas avoir de disposition pour être enfermée dans un studio. J'étais plutôt destinée à faire de la photographie publicitaire parce que je venais des arts graphiques. Et j'ai fait 2 ans d'études à l'école des Gobelins et je me suis vraiment rendu compte que j'avais besoin de technique, mais que le travail en studio, non, c'était pas fait pour moi. Et du coup, je suis sortie avec mes appareils photo faire du reportage et c'est comme ça que j'ai commencé.
Et donc, vous faites partie des 10 photographes de cette édition de Report Images. Pourquoi avoir voulu y participer ?
Alors en fait, je suis présente sur ce festival depuis la première édition. J'ai toujours soutenu ce festival parce qu'il a pour ambition première d'amener la culture là où on l'attend pas forcément. Et c'est vraiment un des credos que je défends depuis toujours. C'est quelque chose qui m'est assez précieux. Et je viens d'un milieu populaire où aller au musée, ça va pas forcément de soi. Et je trouve que ce festival, c'est vraiment un bon moyen de montrer à tout le monde que c'est possible d'amener la culture dans des lieux différents, que des lieux qui sont parfois difficiles d'accès parce que un petit peu élitistes et parfois cher pour certaines personnes. Et c'est pour ça que je me suis vraiment engagée tout de suite dans ce festival parce que j'ai trouvé que c'était une très belle idée. Il fallait la défendre et la soutenir. Donc en étant bénévole, la première année, j'ai pu être exposée tout de suite. Et puis dans les autres éditions, j'y ai participé, mais de façon un petit peu différente parce que j'étais enceinte et que j'allais avoir un bébé. Donc c'était plus compliqué pour moi de m'organiser pour déposer mon dossier et candidater. Mais du coup, j'ai fait d'autres choses. J'ai animé des débats, j'ai passé des coups de téléphone, j'ai aidé un peu en sous-main à faire que les choses avancent et puis garder un petit pied dans l'organisation, mine de rien. Voilà.
Et donc, cette année, vous présentez votre série Il était une fois la vie programmée, qui aborde donc l'accouchement par césarienne. C'est une commande de magazine. Pourquoi et comment est-ce qu'on fait un reportage en plein accouchement pendant cet acte de césarienne qui est un peu particulier ?
Alors c'est effectivement un espace de travail qui est quand même très spécial et c'est une spécialité en l'occurrence en ce qui me concerne. Je suis venue à la santé et à la photographie en milieu hospitalier un peu par défi nécessaire. J'ai été hospitalisée très jeune et j'avais vraiment une grosse phobie de l'hôpital et en fait je me suis lancée un défi de faire un reportage en milieu hospitalier. La première fois, ça a été très, très difficile. Et puis ensuite, c'est vraiment devenu une spécialité parce que je me suis rendu compte que mon travail était légitime. Là-bas, il y avait beaucoup de choses à montrer et à expliquer. Quand je suis en face du red chef de family qui me fait cette commande, c'est quelque chose qui coule de source parce que, c'est pas le premier accouchement que je fais et ça fait déjà plusieurs années que je travaille avec la journaliste qui est Claude Desailly, avec qui j'ai travaillé pendant presque 20 ans également. Et donc, quand on arrive pour faire ce reportage, en fait, tout est déjà cadré. On a travaillé sur les autorisations. Les prises de vue sont programmées par l'hôpital. On connaît en plus l'équipe parce qu'on est déjà venu travailler 2 fois sur place, pas pour le même type de reportage, pour des choses un petit peu différentes. Mais ce reportage a été en plus parti d'une commande de la rédaction suite à un courrier des lecteurs. Donc c'était d'autant plus intéressant de s'y pencher. Une dame avait envoyé un courrier indiquant que elle allait avoir droit à une césarienne programmée. Elle était morte de peur parce qu'elle n'avait pas le choix. Et que quand on lui avait annoncé ça, on lui avait pas donné beaucoup de détails. Et donc l'idée, c'était vraiment de détailler ce qu'était une césarienne étape par étape en photo et avoir effectivement un témoignage écrit important avec un petit peu expliquer quel était le rôle de chaque personnel qui allait approcher les parents et la maman pendant ce grand événement qui est la césarienne. Moi, ça fait partie de ma démarche photographique. C'est un des grands bonheurs que j'ai depuis que je suis photographe et que je travaille enfin en numérique parce que le passage au numérique n'a pas forcément été facile. Mais l'avantage donc du numérique, c'est la simplicité de partage. Donc cette famille, je ne la connaissais pas avant d'arriver sur place. Et comme les choses en plus se sont très bien déroulées, je laisse quoi qu'il arrive une carte à la famille, une carte de visite. Et ensuite, une fois qu'on laisse passer un petit peu de temps, on leur fait parvenir la publication. Et une fois que cette publication a lieu, j'ai l'autorisation de pouvoir montrer l'ensemble des photos. Et donc, j'envoie un lien avec un album photo privatif. Et comme ça, la famille peut disposer des images de ce jour-là et peut après en disposer, bien sûr. Je reste propriétaire des images, mais bien sûr, je les offre à la famille qui a accepté d'être photographiée. Donc c'est toujours un plaisir. Et d'ailleurs, bah, pour participer à cette exposition, je les ai appelés, je les ai prévenus et je voulais être sûre qu'il n'y avait pas de photos qui avaient été sélectionnées ou que je devais envoyer qui leur posent problème. Voilà. Donc ils savent tout et ils sont contents que cette exposition ait lieu avec leurs images.
Et est-ce que vous avez eu de témoignages d'autres femmes ou d'autres familles qui justement avaient vécu cet événement-là?
Alors oui, parce que maintenant, la césarienne programmée, c'est quelque chose d'assez courant, surtout en France. On fait ce type de programmation pour des raisons bien précises. On ne le fait pas par hasard. En général, c'est parce qu'il y a des raisons tout simplement physiologiques qui font que soit la maman ne peut pas accoucher par voie basse parce que le bébé est trop grand ou trop gros et on sait que ça passera pas parce que son bassin n'aura pas la place de laisser passer l'enfant. Ou tout simplement, c'est la maman aussi qui peut avoir des soucis de santé, avoir des soucis cardiaques. Ou ce sont souvent des femmes pour qui elles ne vont pas jusqu'à terme et on les fait accoucher plus tôt parce qu'on sait que sinon, il est possible que le cœur ait un vrai problème pendant l'accouchement. Et donc, les chirurgiens ne prennent pas le risque. Et donc, ils sont au courant des problématiques de la maman. Et dans ce cas-là, ça fait aussi partie de ce type d'opération et la césarienne est toute choisie pour ces mamans-là. Mais c'est toujours intéressant parce que c'est vraiment la césarienne quand elle est programmée, même si c'est un cadre sanitaire très précis pour la famille, surtout quand c'est une première, c'est quand même quelque chose d'impressionnant et il y a beaucoup d'inquiétude. Donc on était contente en fait de pouvoir faire ce reportage pour essayer de clarifier un peu les choses, d'atténuer certains angoisses et puis surtout de pouvoir éventuellement vaincre certains tabous, expliquer vraiment en détail, puisqu'il y a beaucoup de choses dont les femmes ne parlent jamais, notamment la cicatrice, les douleurs qu'elles ont pu ou pas ressentir d'ailleurs. Et donc c'est des reportages qui sont très intimes et qui finalement sont intéressants parce qu'il y a beaucoup de questions auxquelles on ne répond jamais ou des choses dont on ne parle pas en ce qui concerne les accouchements. Et je pense que c'est intéressant d'en parler, que les femmes puissent avoir accès à ce type d'information, et les parents aussi. D'ailleurs, les papas, pour lui, c'est important de savoir ce qui va arriver à sa compagne. Donc, ça peut être la façon un petit peu détournée aussi de leur faire parvenir certaines informations. Donc, c'est des sujets qui sont intéressants à traiter pour plein de raisons.
Et donc, ces photos, elles datent de 2015. Est-ce que, 6 ans après, vous les abordez différemment, vous les voyez différemment?
Il y a toujours, en fait, ce qui est intéressant quand on est photographe, c'est que souvent, quand on regarde des photos, on se rappelle exactement de ce qu'on a vécu et de comment ça s'est passé, jusqu'au prénom des personnes. En général, on s'en souvient, parce que c'est quand même un événement fort dans une vie. Et en plus, en tant que femme, c'était pour moi un moment intéressant, parce que j'avais vécu un premier accouchement, mais pas dans ces conditions-là. Et du coup, il y avait des choses dont j'ignorais totalement l'existence. Et je sais que j'avais de toute façon une grande curiosité d'un point de vue vraiment purement technique pour voir en tant que femme comment les choses se déroulent quand on est confronté à cette situation. Et en tant que photographe, en fait, c'était un moment intéressant parce que techniquement, justement, pas simple. Il y a beaucoup de contraintes. Même s'il n'y avait pas le Covid à ce moment-là, il y a beaucoup de précautions en termes sanitaires qui sont prises par rapport à la désinfection, au nettoyage. Nous, quand on travaille, on est emballé en salle de chirurgie comme les infirmiers ou les infirmières. On porte pas de gants, mais parce qu'on touche à rien. Mais effectivement, il y a tout un travail autour de ça qui est intéressant et très prenant. Et quand on regarde les photos quelques années plus tard, on est content ou pas de son travail. Moi, en l'occurrence, j'étais contente parce que je me souviens vraiment des problématiques techniques que j'avais eues ce jour-là et que j'avais trouvé que je m'en étais pas mal tirée. Et avec le recul, oui, ça se confirme. Je trouvais que ce travail n'était pas si mal que ça parce que ça se fait toujours un petit peu dans l'urgence et que c'est des choses... on peut pas reprogrammer quelque chose pour vous. Donc, c'est soit vous y arrivez, soit vous vous plantez. Donc, ce jour-là, on n'a pas trop le droit à l'erreur, en fait.
Dernière petite question. On peut découvrir donc vos différentes réalisations, notamment sur votre site internet, oui. Où on peut lire que vous vous nommez donc la souris photographe. J'imagine que c'est un jeu de mots avec votre nom de famille.
Tout à fait. Et puis aussi certainement ma façon de travailler, parce que je suis quelqu'un de relativement discrète. Et mon credo, c'est vraiment de me faire oublier de mon sujet. Et je leur dis toujours, je vais me faire aussi petite qu'une souris. Donc, je travaille pour ça énormément avec les enfants, parce que j'adore travailler avec eux, parce qu'ils nous oublient, en fait, complètement. Et quand on arrive à se faire oublier des adultes ou des gens qui sont autour de nous, c'est un vrai bonheur quand on est photographe, parce que on se sent beaucoup plus libre de ses mouvements, et surtout à sa place. On sent que ce qu'on fait ne dérange pas et est légitime. Donc, c'est beaucoup plus agréable pour travailler.
Natacha Souris, merci d'avoir répondu à nos questions.
Je vous en prie et bonne continuation.
À vous également. Au revoir.
Au revoir.
L'exposition Reporte Images est à retrouver jusqu'au 27 mai au Capucin. C'est vous qui le dites, revient juste après et même après Je t'aimerai de la chanteuse Oshi.
Tu sais, la vie ne vaut rien si tes yeux ne sont pas dans les miens. Oh, j'ai du mal à faire le lien. Je deviens pâle sans tes mains. Oh, j'aimerais tout donner pour toi. Je te donne mon corps et puis ma voix. Oh, je pourrais tout voler, je crois. Je t'offre mon art et puis ma joie. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras ce que veulent dire les gens qui vivent imprudemment? Je t'aime sans la raison, je t'aime à rendre compte. Je t'aime à ma façon. Tu pourrais être mon grand chagrin. À chaque plaie, j'aurais le médecin. Je t'offrirais mes deux reins. Oh, je pourrais tout brûler pour toi. Pour qu'enfin il ne reste que moi. Oh, je pourrais même casser. De toute façon, je ne crois qu'en toi. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras ce que veulent dire les gens qui vivent imprudemment? Je t'aime sans la raison, je t'aime à rendre.
C'était Oshi et son titre « Et même après, je t'aimerai ». Vous écoutez toujours « C'est vous qui le dites » sur le 101.1 FM à Brest. Nous sommes en compagnie de la médiathèque de Saint-Martin et de trois résidents de la résidence Esperanza avec nous ce soir. Joselito, Frédéric et Laurent, bonsoir.
Bonsoir.
Et vous êtes les résidents de la résidence Esperanza et Marie Chamboredon et Patricia Soubigo, bonsoir.
Bonsoir.
Et donc vous êtes bibliothécaire. Et du coup, donc il y a eu un atelier d'écriture qui s'est mis en place en collaboration donc avec cette résidence et la médiathèque Saint-Martin. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que ça s'est organisé?
Alors bonsoir. Nous avons donc un partenariat depuis un an environ avec la résidence Esperanza. Ça a commencé en février 2020. À la demande de leur animatrice, nous avons fait une rencontre avec quelques résidents d'Esperanza. L'objectif était de faire découvrir la médiathèque en proposant des lectures à voix haute et qui avait été suivie d'une discussion philosophique avec Yann Marchand. Et les résidents avaient d'ailleurs choisi leur thématique, c'était sur la discrimination. Puis nous avons voulu prolonger ce partenariat et donc là on avait choisi des ateliers d'écriture. Je vais laisser Marie continuer.
Oui, bonsoir. Et en fait, cette année, on s'est dit qu'on voulait donc continuer le partenariat avec eux et on voulait leur laisser la parole encore un peu plus. Et on s'est dit qu'en fait, on allait travailler des textes avec eux, essayer de les faire écrire. Et en fait, on a pensé aussi à finir par de l'oralité. Et en fait, leur laisser complètement la parole, c'est-à-dire voilà, finir avec un spectacle de slam qui aurait été préparé avec la slameuse professionnelle Clotilde Brito, qui est de Brest d'ailleurs.
Et donc, ça s'est fait aussi en lien avec des intervenants, c'est ça, ces ateliers d'écriture ?
Tout à fait, ouais, tout à fait. Nous, on a commencé les premiers ateliers d'écriture tous ensemble avec la résidence. Ensuite, on a eu une discussion philosophique avec Yann Marchand. Et voilà, pendant cette discussion, ils ont beaucoup parlé du confinement et des effets du confinement qu'on a tous, qu'on ressent tous. Et ensuite, ils ont eu une mise en voix de leurs textes avec Clotilde Brito, des textes qu'ils ont travaillés avec Clotilde Brito ou qu'ils ont travaillé eux-mêmes depuis longtemps, comme José Lito, qui avait ses propres textes.
D'accord. Et peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer un petit peu, vous, en tant que participant. Qu'est-ce qui vous a attiré vers cet atelier ?
Donc du coup le slam, donc du coup la chanson, écrire des textes, c'est une nouveauté pour moi parce que je connais pas vraiment le slam, donc j'apprends à faire du slam, donc du coup ouais ça m'apprend à faire du slam quoi, donc ouais c'est tout nouveau, voilà, je connais pas.
Bah, nous ça nous permet, c'est un moyen d'expression qui permet aussi de nous libérer, de aussi d'évacuer ce qu'on vit, ce qu'on ressent surtout, et fait parler, voilà, ça fait du bien quoi.
Mais José Lito avait déjà écrit un texte qu'il a lu d'ailleurs à la médiathèque le 9 avril dernier, un texte de slam, donc il connaissait le sujet.
Oui.
Et d'ailleurs, cette restitution de texte a été un moment très très émouvant à la médiathèque. Vraiment. Ils ont été très applaudis.
Et ben, en parlant de cette restitution, du coup, on va écouter un premier extrait pour voir un petit peu ce à quoi ça ressemblait. Donc, cette restitution à la médiathèque de Saint-Martin le 9 avril dernier.
Merci d'être venu à la restitution des textes qui ont été faits avec la résidence Esperanza. Il y avait pour ces ateliers Frédéric, José, Laurent, Anthony et Dominique. Dominique n'est pas présente aujourd'hui, mais les quatre autres sont là. Et nous allons vous lire les textes qui ont été faits lors de ces ateliers, grâce à l'intervention également de Marie et de Patricia, qui ont été très précieux sur ce projet. Et ouvrez bien vos oreilles pour entendre ce que ces résidents ont à vous faire passer.
Je commence. Laurent n'est pas content.
Le Covid a pris sa liberté, ça le fait stresser. Il n'a plus le cœur à chanter, il a du mal à s'exprimer.
Son cœur est triste à en pleurer. Plus d'horizon, que de la fumée. Ça le fait paniquer.
Au secours, à l'aide, venez m'aider. Je ne peux plus aller marcher, je ne peux plus aller au ciné, je suis dégoûté.
Pourtant, il ne faut pas se laisser aller.
Se battre et encore continuer.
Il faut savoir souffler.
Vive la liberté.
Libérer, s'occuper.
Se changer les idées.
Dire aux amis notre amitié en...
Je vais maintenant vous lire un texte qui a été créé à partir des discussions que nous avons eues lors de l'atelier que nous avons eu ensemble. Donc tout ce qui est dans ce texte fait partie des réflexions des résidents. Je me surveille. Je me surveille. Je porte un masque. Je fais taire mon cœur. Je repousse les gens, leur dis de rester loin, de ne pas s'approcher. Malgré l'incompréhension dans les yeux des enfants, je reste à distance. Je mets du gel hydroalcoolique sur mes mains, distanciation, interdiction, désinfection. Je me préserve, je vous protège, je vous préserve, je me protège, je me méfie, tu te méfies, tout le monde se méfie. Pourtant, le regard ne contamine pas. Je dis bonjour. Je suis polie, gentille. Je tiens la porte. Et je remets du gel hydroalcoolique. Je garde mon sang-froid. Je surveille ma révolte. Je fais des concessions. Je me lave les mains longtemps à l'eau et au savon. Je fais attention. J'apprends à vivre avec les autres. S'il le faut, je me fais tester, retester. J'apprends à vivre ensemble. Ne pas me faire détester. Je fais attention aux mots que je choisis. Je ne parle ni trop, ni trop peu. La parole est une arme. Et je ne veux blesser personne. Nous sommes présents, mais secrets. Présents comme un cadeau, secrets, car derrière un masque. Je me surveille, me lave les mains. Je reste loin, mais là quand même. Pour combien de temps encore ?
Il est 19h, je suis à l'intérieur, mais j'aimerais vaincre mes propres peurs. Hier, c'était aujourd'hui. Seule existe la lassitude.
Moi, j'ai envie de profiter du bonheur sans avoir l'air du bonheur.
J'avais envie de voir ma famille et mes amis. Après le couvre-feu, sortir un peu, sans avoir peur de se faire choper, sans se faire réprimander.
On aimerait mieux aller au restaurant. Manger un bon plat pour manger mieux, un McDo avec ses potes.
Elle s'est promenée, profiter de la vie sans souci, sans peur malgré lui, toujours sans barrière, chez les bras vers les amis, discuter des cafetés, des causes sonnées.
Aller à la plage, faire la fête, en attendant le téléphone, c'est mieux que rien.
Et maintenant, un texte de José qu'il a écrit seul avant le confinement et qu'il veut nous livrer.
Mon texte s'appelle « Ma liberté d'esprit ». Quand je parle à quelqu'un, ça s'arrête. Et ça me prend la tête. Ça me frustre, ça me perturbe et je me dévalorise. Je prends mes clics, mes claques, je me tire, je fais mes valises. Solitaire, fier, le smile aux lèvres, en quête de repères, avec mon baladeur, je m'évade et je reviens sur terre. Oui, j'existe, que ça plaise ou non, je persiste. Je vis le naturel, je détruis le superficiel. Je ne vise pas le regret, et bien sûr, j'ai droit au respect. Je cherche mes mots, mais je les trouve pas. Accro aux anxiolytiques pour me calmer et me retrouver avec moi-même, pour éviter les terreurs, basta. L'hypocrisie, c'est pas ma tasse de thé. Je les rejette, ces enculés. Je me fais plaisir, je continue à vivre et qui même me suivent.
Force de résister, c'est à toi. Anthony, c'est toi qui commence. Force de résister.
Force de résister. Cette année, on a accumulé des soucis, attestation, confinement, masque.
Chemin qu'on prend, qu'on apprend, chemin qu'on prend.
Covid, tu ne mourras pas. On n'est pas tous égaux.
Force
de résister, plus soudé, plus de réconfort.
Et on est toujours donc en compagnie de Marie Champoredon, de Patricia Soubigou, ainsi que de José Lito, Frédéric et Laurent, donc pour nous parler de l'atelier d'écriture et de sa retranscription que nous venons d'entendre donc sur le 101.1 de Radio U. Là, en fait, tout de suite, première question en entendant ces mots qui sont très forts. Qu'est-ce que vous ressentez en écoutant ce que vous avez enregistré ?
Bah, du coup, moi, je trouve qu'il y a un peu d'amitié, de solidarité, on va dire, entre nous. Donc, on apprend à s'écouter les uns les autres. Et ça sort des textes formidables. Il y en a qui apprend le slam, donc on apprend à discuter, à créer des liens, on va dire. C'est déjà... C'est bien, c'est... Ouais, c'est déjà pas mal. C'est, je trouve que c'est bien.
Ouais. Bah, pour moi, ça fait passer un message aussi pour tous les résidents aussi. Un message aussi de... le cœur, le... Ce qu'on a vraiment ressenti à travers ce confinement, ce qu'on a pu exprimer.
Ce que je disais, c'est qu'effectivement, c'est des mots qui sont très forts, en fait. Moi, je voudrais revenir sur des phrases qu'on a entendues. À la toute fin, c'est « force de résister ». Cette année, on accumule des soucis, attestation, confinement, masque, chemin qu'on apprend, chemin qu'on prend. Covid, tu ne mourras pas, on n'est pas tous égaux. Je pense que c'est des mots qui sont très forts. Qu'est-ce que vous vouliez exprimer par le fait de dire « on n'est pas tous égaux » ?
Alors ça, je ne sais pas, parce que ce n'est pas moi qui l'écris. Et je peux essayer de ressentir un petit peu cette détresse qu'on a vis-à-vis du virus, à toutes ces restrictions... On sent un peu en prison, on va dire. Et ça, c'est quelque chose de difficile. Donc nous, nous trois, on fait beaucoup de choses à Esperanza. Cet après-midi, on a été faire du théâtre. Ça fera 10 jours. Et on représente, on fait une représentation demain à 14h.
Ce sont des ateliers, j'imagine, qui vous font du bien en ces temps de confinement.
Ouais, ça permet de nous lâcher. Nous lâcher nos angoisses, notre détresse. C'est vraiment super, quoi.
Et là, donc, vous êtes trois ce soir. Combien est-ce que vous étiez ? Vous étiez cinq pendant l'atelier de slam, c'est ça ?
Oui, effectivement. Il y avait cinq participants. Et donc là aujourd'hui, Dominique et Anthony n'ont pas pu venir pour l'émission, mais on pense à eux très fort.
Voilà. Ils ont participé avec nous depuis la Plateria, résidence Esperanza. Il y avait eu Dominique, il y avait les gens ont participé avec nous, donc du coup, on apprend aussi à vivre avec eux. Et du coup, c'est une nouveauté.
Voilà, on pense très fort à eux et qu'ils prennent bien soin d'eux.
Il y a quelque chose qui s'est créé peut-être avec cet atelier. J'ai l'impression que vous parliez de solidarité. J'ai l'impression qu'effectivement, ça s'est créé aussi encore plus avec cet atelier, peut-être.
Oui, c'est vrai que avec les textes et tout ça, quand on se relie, il y a les textes qui sont très motivants, qui sont voilà, quand on écrit le slam, du coup on regarde nos textes, ça va, c'est pas que de la négatif, c'est aussi du positif, il y a un peu de mélange, donc c'est bien qu'il y ait un petit peu de mélange avec chaque personne différente, donc ça change quoi, c'est vrai que ça aurait pu être négatif au point où je trouve que un petit changement de c'est bien.
Et donc la restitution, on l'a dit, elle s'est faite le 9 avril à la médiathèque Saint-Martin. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de comment ça s'est organisé ?
En fait, on avait déjà commencé à préparer la restitution quand Clotilde de Brito s'est jointe à l'aventure. Donc on savait qu'on allait être en public, qu'on allait avoir des micros. C'est une étape un petit peu... ça fait un peu peur. Mais on l'a vécu finalement très sereinement parce qu'on se connaissait tous déjà. Et on savait qu'on aurait du monde dans la bibliothèque. C'est des gens qui ne savaient pas forcément qu'il y aurait quelque chose. On les a juste prévenus qu'il y aurait une restitution là tout de suite. Et en fait, tout le monde s'est joint au mouvement.
Tous les usagers, oui, sont venus écouter, vous écouter.
Ouais.
Ouais. Et c'était vraiment un public conquis, hein. Comme je dis, c'était un moment très, très, très émouvant. Mais je voulais revenir un peu sur le ressenti de la résidence. C'est vrai que nous qui venons de l'extérieur, Marie et moi, on dirait que vous ressemblez à une famille quand même.
Et Dominique, c'est une dame, Dominique, hein, et qui faisait un peu la maman. Enfin, c'est un peu le ressenti qu'on
c'est
avait.
C'est vrai que qui, bah, elle est là depuis
qui
longtemps.
Qui vous protège et qui vous connaît bien.
Bah, les gens ont créé Esperanza, en fait. C'est pour ça, c'est devenu Esperanza au fur et à mesure des temps, avec les gens qui viennent travailler là. Nous, on participe en tant que résidents. Mais c'est vrai que bah, grâce à eux, c'est un petit monde qu'ils ont pu construire, un petit lieu de logements sociaux sympa, quoi. Je trouve que c'est une petite résidence ou en pension de famille. C'est pour ça qu'on dit pension de famille, parce qu'on essaye de s'entendre avec tous les résidents. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une mixité, mais on peut pas s'entendre forcément avec tout le monde. Donc du coup, moi je sais qu'il y a quand même un conflit intergénérationnel, hein. Il y a des personnes âgées quand même qui sont là, qui ont, voilà, on s'entend pas forcément avec eux. Donc après, on essaye, mais voilà, des fois.
Bon, ce qui est bien avec Esperanza, c'est qu'on a quand même un jardin, on a quand même un espace de vie autre que les liens collectifs, hein, le collectif. On peut aller dehors, on peut s'aérer, puis des activités proposées par le CCAS, on peut faire des activités. Donc c'est bien, quoi.
Ce qui doit faire du bien, du coup, en ces temps un petit peu compliqués, j'imagine. On va revenir tout de suite après donc à un second extrait de cette restitution du 9 avril dernier.
Et maintenant, un deuxième texte qui a été fait à partir des échanges réalisés avec les résidents. Je leur ai demandé, pour eux, où était la vie. La vie. Depuis un an, nous la cherchons. Nous la voulons, la désirons. Et nous posons cette question, où est la vie? Dans un bout de jardin, dans le chant des oiseaux qui s'éveillent au printemps, dans une balade à vélo, un tour en bord de mer, dans le grondement des vagues, dans le parfum de liberté des embruns, dans les promesses de l'horizon. La vie est là où on respire, dans le sport où nos corps s'animent, dans la balle de ping-pong, la corde du tir à l'arc. La vie est là où on partage. Où on partage de bons moments avec les autres, dans une bonne bouteille, dans un atelier de cuisine, autour d'un barbecue, dans un bœuf entre copains musiciens. La vie est là où on peut rêver. Dans une salle de cinéma, sur la scène d'un théâtre, dans un voyage lointain ou tout près. En Italie ou en Égypte. Ou même en vacances à Vannes. Dans un voyage intérieur, dans sa tête, où il fait toujours beau, où toujours brille un grand soleil et résonne le rire des enfants. Dans l'espoir d'un jeu à gratter, qui ferait gagner suffisamment d'argent pour s'acheter une belle maison dans le quartier de Pontanezen. Et pourquoi pas ? Chacun ses rêves. La vie est dans le lien, dans les relations amoureuses, dans les relations amicales. Dans l'attachement pour ces familles de réfugiés qu'on aime et qui nous aiment. Il est joli, non, le mot refuge. Dans le lien entre humains, sans séparer les plus jeunes et les plus âgés. Mais la vie ne va pas fort en ce moment. Il n'y a plus de tendresse. Il n'y a plus de place pour l'affectif et la compréhension. On nous aboie dessus. Les gens sont peureux, les gens sont vite essoufflés, ils oublient de respirer. Quand ceux-là qui nous donnent des ordres se seront tous barrés, nous, on fera la fête. Où est la vie? J'ai une réponse à la question. La vie fourmille dans la parole et dans l'échange, quelque part dans la ville de Brest, au numéro 3 de la rue Danton. Et maintenant, un texte qui donne un peu d'espoir, le texte « Sortir ».
Ne plus nous interdire, savoir en rire.
Il faut bien définir, rêver et enfin reconstruire.
Penser très fort à venir, aussi ciblé à nourrir.
Ne plus avoir à s'enfuir, savoir le dire.
Tout reconstruire, ne plus haïr.
Des projets à bâtir.
Oublier les mauvais souvenirs.
Interdire au monde de nous nuire.
Nous sommes libres.
Merci beaucoup aux résidents pour leurs textes, pour leurs paroles, leurs mots, leurs pensées, leurs émotions, tout ça livré comme ça au public. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci à toi.
De rien, de rien.
C'est juste que ça fait des mains du papier.
Oui.
Et une petite pensée à Dominique quand même, parce que c'est dommage qu'elle n'ait pas pu venir, mais elle a énormément participé aux ateliers aussi, donc voilà. Oui. On pense à elle et qu'elle se remette vite.
En espérant qu'elle retrouve aussi dans les mots qui ont été dits aujourd'hui, en écoutant la radio, qu'elle retrouve ce qu'elle a proposé et toutes les émotions qu'elle nous a livrées également en atelier.
Toujours sur Radio U 101.fm, on vient d'entendre la fin de la restitution des ateliers d'écriture des habitants de la résidence Esperanza. Je vous ai vu sourire à certains moments. Je me demandais, est-ce qu'il y a vous une phrase ou un moment de cet atelier qui vous reste particulièrement en tête?
Oui, les jeux à gratter, par exemple, je me suis reconnu. Je suis là, j'avoue, j'ai un petit problème d'addiction, mais après, bon... Ben voilà, c'est pas si grave, quoi. Il y en a d'autres qui sont... Voilà, quoi. Donc, du coup... Non, mais bon, ouais, bah du coup, on... Voilà, quoi, c'est mon petit problème. On... Pas... Voilà. Les bureaux de tabac, voilà.
Ouais, c'est sûr, il y a un affectif et la compréhension, surtout. J'ai un cœur aussi...
Vous avez l'impression d'avoir été compris pendant cet atelier?
Oui.
Et est-ce que c'est un atelier justement qui vous a aidé ou qui a été positif pour vous?
Ouais, ça permet d'extérioriser ses émotions, de s'exprimer en public et de vraiment lâcher prise. Avec le confinement, avec tout ce qui s'est passé. C'est vrai que ça fait du bien, quoi. Émotionnellement.
Ouais, c'est des moments qui sont compliqués. Oui. C'est vrai qu'on entend, c'est des mots qui font sourire parfois, qui font rire, et après on a des mots aussi qu'on entend qui sont forts, où on sent qu'il y a de la difficulté de votre part, justement, effectivement. Et est-ce que c'est des ateliers, si il y en a encore par la suite, où vous souhaiterez reparticiper?
Oh oui, je vais reparticiper. Moi, je passe le micro à Laurent aussi, parce que...
Oui, bien sûr, puisque la preuve, c'est qu'on s'est inscrit au théâtre il y a 10 jours et c'est beaucoup de boulot. On croira pas comme ça, le théâtre, mais enfin, on y passait 5-6 heures par jour depuis 10 jours. Et franchement, physiquement, mentalement, c'est fatigant. Mais on s'accroche, on s'est toujours accrochés tous les trois. On l'a fini. Demain, on a la présentation à 14h. Mais on est soudés tous les trois. Je trouve que c'est créé une amitié entre nous. Alors qu'avant, on se parlait pas spécialement dans la résidence Esperanza. Et ça fait du bien, comme disait Fred, ça soude les gens, ça... On n'en décolle pas, quoi, en fin de compte. Et puis, parler à un micro, il y a quelques semaines, j'aurais pas pu. Et là, j'y arrive maintenant. Ça me permet de m'extérioriser, d'avoir la parole, qu'on m'écoute. D'ailleurs, mon rêve, ça a toujours été faire de la radio.
Et ben voilà.
Bon, il n'y a pas longtemps. Et ça sera chose faite.
Exactement.
Merci.
Bah, merci en tout cas d'être venu ce soir, José Lito, Frédéric et Laurent.
Merci à vous.
Et merci Marie Chamboredon et Patricia Subigo d'être venues. Et donc, je rappelle que toutes les informations concernant le réseau des médiathèques de Brest sont à retrouver directement sur le site biblio.brest.fr. Et puis sur... Ah, une dernière chose à rajouter.
Ouais, oui. Avant de partir, on tient vraiment à remercier la résidence, les personnes qui s'occupent de la résidence, et aussi le service culturel de la médiathèque qui a appuyé notre projet. Voilà, donc c'était juste un petit merci. Tout ça s'est fait de façon très, très sympathique et donc voilà, on tenait à les remercier.
Eh bien, merci à eux et surtout.
Merci, on a tous passé un bon moment et c'était vraiment super, super bien.
Et en tout cas, on vous souhaite bon courage à vous trois pour la pièce de théâtre de demain.
Merci.
Merci. Merci à vous.
Merci.
Merci. Et nous, on se retrouve juste après le titre Mountains des Amirals. Running these mountains up in high till we roar. Rising a fist up in the sky till we soar. We are not at war, although our fists are sore. Putting rage out of our chest won't bring back our rest. Toujours sur le 101.1 FM, vous écoutez C'est vous qui le dites, et d'ailleurs c'est presque terminé. Donc on a entendu Mountains des Amirals, et le temps est venu pour nous de repartir comme chaque soir à la découverte de l'alimentation autrement, le reportage de la Core Lab. Nous continuons notre visite chez Vincent Kenya, membre de la SARL du Foin dans les Sabots, et éleveur de poulets et de porcs. Il nous parle de sa volonté de proposer une gamme complète de produits à ses clients.
L'alimentation autrement. L'alimentation autrement, une collection de reportages à la rencontre des acteurs et actrices de l'alimentation saine et durable en Bretagne.
Alors ici, surtout, en fait, les porcs ont un super intérêt sur la ferme, c'est que on génère beaucoup de déchets laitiers. C'est-à-dire tout le petit lait de produit par la fabrication de fromage et de fromage blanc, eh ben, revient à l'exploitation et nourrit les porcs. Donc on nourrit les porcs avec les céréales de la ferme. Hein, on a une trentaine d'hectares de céréales, en bio, hein, bien sûr, tout. Et où on fait des mélanges pois févrole et blé, ou pois févrole triticale dans la même parcelle. On met aussi du seigle. On a des mauvaises terres, hein, sur Garesquin, c'est pas la bosse. Hein. Donc du coup, on met du seigle et on nourrit les porcs avec ça. Farine, plus petit lait, quoi.
Comme pour l'alimentation des vaches, tu vises l'autonomie alimentaire aussi pour tes porcs.
Bah, le séchoir en vache laitière nous permet une autonomie à 100%. Aucun achat extérieur, si ce n'est voilà, quelques minéraux l'hiver pour avoir, c'est les oligo-éléments, quoi. Hein. Même l'été, on ne le met même pas. La vache, la pâture, en fait, d'herbe naturelle, il n'y a pas besoin de complémenter. Et pour les porcs, je suis autonome à 100% aussi, du coup. De l'orge, blé, févrole, pois, comme je te disais, seigle. Et puis en volaille, par contre, bah, Gardesquin, c'est un peu froid, c'est pas des très bonnes terres, et donc du coup, on fait pas de maïs grain. Donc ça, j'achète à l'extérieur. Et j'achète du soja bio aussi, français, à l'extérieur. Et ça, c'est mes seuls achats, c'est pour les volailles. Okay. Et pour les volailles, par contre, je suis autonome quand même à plus de 50%. C'est simplement maïs et soja en grain, hein, du coup, cette fois-ci, hein, qui sont faits à l'extérieur. J'ai pas trouvé mieux pour l'instant. J'aimerais bien être un peu plus autonome encore, mais voilà, ça c'est. En volaille, c'est compliqué. Hein. L'équilibre en protéines est pas évident à faire avec autre chose aujourd'hui que du tourteau de soja. Ouais.
Ouais.
Dans ces poulaillers mobiles-là, en fait, je pose le poulailler là.
Ouais.
Tu vois, les poussins, ils arrivent. Et ils vont finir leur cycle sur cette parcelle-là. Mais après, le poulailler, je vais soulever, je vais le nettoyer, le désinfecter et le placer sur une autre parcelle. C'est de la prophylaxie, c'est vraiment éviter les maladies. Pareil en bio, les rotations en céréales, c'est la même chose. Hein, tu vois, si on continue à faire la même culture sur la même parcelle tous les ans, enfin forcément les champignons ils vont s'adapter, les mauvaises herbes vont s'adapter, etc. Donc c'est un peu une course contre la montre. Donc on fait des rotations vraiment longues sur nos cultures. Et ben pour les poussins, là tu vois c'est la même chose. Pendant 6 mois il n'y a pas de poussins sur le parcours. Donc du coup je pose un poulailler là. Je vais finir mon cycle sur cette parcelle-là. Mais après pendant 6 mois, j'aurai pas de volaille présente sur cette parcelle-là. Donc, prophylaxie. Moi, j'ai jamais utilisé quasiment d'antibiotiques parce que j'avais un lot malade. Tu vois, l'idée, c'est vraiment d'éviter qu'ils soient malades, tout simplement, quoi.
Ce reportage a été réalisé par la Corlab, en partenariat avec la Maison de la Consommation et de l'Environnement et la Confédération Bretagne Environnement Nature. Avec le soutien de l'ADEME, la DRAF Bretagne et l'Agence Régionale de Santé.
C'est vous qui le dites, est terminé pour ce soir. N'oubliez pas que l'exposition Report Images est à découvrir au Capucin jusqu'au 27 mai et que même en ce temps de confinement, le réseau des médiathèques de Brest est accessible. Retrouvez cette émission en podcast sur le site internet de Radio U ainsi que toutes les autres émissions de la radio. On se retrouve lundi pour de nouveaux invités et en attendant, amusez-vous bien sur le 101.1. Alors j'ai glissé de la surface.